7-9.
Et bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 octobre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'espoir contre une maladie qui a hanté l'Afrique subsaharienne pendant des siècles. L'Organisation Mondiale de la Santé recommande pour la première fois un vaccin contre le paludisme. C'est un tournant majeur. On voit ça avec vous Anaïs, après les autres titres.
Les dirigeants européens cherchent toujours la réponse à la flambée du prix du gaz. À Dijon, plusieurs gardes à vue après la fermeture définitive du centre dentaire Proxy Dentaire. 73 patients ont porté plainte pour mutilation. Aux États-Unis, un juge fédéral vient de bloquer la loi sur l'avortement au Texas. Et puis, la revanche de la Coupe du Monde 2018 attendue par les footballeurs belges. Ils jouent ce soir contre la France en Ligue des Nations.
Et nos invités ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Historien et philosophe camerounais, il est l'un des penseurs africains les plus influents. Il a été chargé par Emmanuel Macron d'organiser le nouveau sommet Afrique-France qui aura lieu demain à Montpellier. Il est temps de se parler sans tabou, dit-il. Achille Mbembe est notre invité à 7h50.
Et on se retrouve à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le moine bouddhiste Mathieu Ricard. Il publie ses mémoires, Carnet d'un moine errant, c'est aux éditions Alary. Et il dialoguera avec vous, évidemment, au 01 45 24 7000.
France Inter. Voilà un vaccin attendu depuis de si longues années. Le premier vaccin antipaludique. Moment historique, dit l'Organisation Mondiale de la Santé, qui appelle à le déployer massivement pour les enfants, car un enfant meurt toutes les 2 minutes du paludisme dans le monde. Le vaccin fabriqué par GSK pourrait donc sauver des dizaines de milliers de jeunes vies chaque année. À Genève, Jérémy Lanche.
2,3 millions de doses du vaccin ont déjà été administrées lors d'essais gigantesques au Kenya, au Ghana et au Malawi. Bilan, avec 4 doses reçues dès l'âge de 5 mois, le vaccin prévient les infections de 40%, 30% pour les formes graves. Cela peut paraître modeste, surtout en comparaison avec les taux d'efficacité des vaccins contre le Covid. Mais c'est pourtant un tournant majeur dans la lutte contre la maladie, estime Pedro Alonso, le responsable du département paludisme à l'OMS.
Je ne crois pas que nous ayons prochainement un vaccin contre le paludisme qui soit très efficace. Mais ce que nous avons ici, c'est un vaccin qui peut avoir des conséquences massives, même s'il n'est, entre guillemets, efficace qu'à 30%. Parce que quand on connaît les ravages que fait le paludisme, même avec 30% d'efficacité, c'est aujourd'hui l'un des vaccins les plus importants qu'on puisse recevoir en Afrique.
D'autres vaccins sont extrêmement attendus, notamment un développé par l'Université d'Oxford et dont le taux d'efficacité avoisinerait les 77%. L'allemand BioNTech, galvanisé par son succès dans la lutte contre le Covid, doit lui lancer des essais l'an prochain, toujours avec la technologie de l'ARN messager. Mais comme pour le Covid, la question maintenant c'est, est-ce que le vaccin antipaludique sera accessible aux pays qui en ont besoin et surtout, à quel prix ? Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Du côté de l'autre pandémie, celle de coronavirus, record de décès en Russie où la vaccination patine, 900 morts en 24 heures. La Suède suspend par précaution l'utilisation du Moderna pour les moins de 30 ans, probabilité minime de risque d'inflammation cardiaque chez les jeunes. Et puis en France, le masque pour les enfants n'est plus obligatoire à l'école primaire, à Bordeaux, Toulouse ou Strasbourg. Au total, 21 nouveaux départements publiés au journal officiel ce matin. Le masque reste obligatoire dans 33 départements. Comment contrer la flambée vraiment unique des cours du gaz, 8 fois plus important qu'il y a 6 mois en Europe ? Tous les pays sont concernés, réunis en sommet en Slovénie. Les 27 en ont parlé hier. Mais Maxence Lambrec, entre attentisme et projet de réforme, les divergences européennes sont frappantes.
Et si l'UE achetait du gaz comme elle a commandé des vaccins ensemble pour faire baisser les prix ? C'est l'idée du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. Nous avons demandé à la Commission d'être audacieuse, innovante dans sa riposte, dit-il. Sauf qu'en face, l'Allemagne, les Pays-Bas, entre autres, considèrent que le marché va finir par se réguler et les prix baisser au printemps. C'est à la fois un problème national que nous devons chacun régler, dit le Premier ministre néerlandais, et des données européennes dont il faudra qu'on débatte. Sous-entendu, on a le temps. Attention aux usines à gaz, glisse en souriant un diplomate français. Emmanuel Macron se veut en effet prudent sous son parapluie.
Les réponses, elles sont techniques dans la formation des prix, mais nous ne sommes pas mûrs sur ce sujet. Elles sont aussi dans nos capacités à stocker. Je pense qu'elles sont dans notre stratégie de moyen terme entre Européens.
La France bataille à ce sujet pour que ses investissements dans le nucléaire soient jugés écolo par Bruxelles. La Commission présentera mercredi prochain sa boîte à outils contre la flambée des prix de l'énergie. Elle assure que les stocks de gaz seront suffisants pour l'hiver. Ljubljana, Maxence Lambrecq, France Inter.
En France, un prix plancher pour la livraison des livres. Le principe a été adopté hier par l'Assemblée nationale en première lecture. Objectif, contrer les géants du commerce en ligne comme Amazon qui facturent les livraisons à 1 centime et sur lesquels les libraires indépendants ne peuvent pas s'aligner.
Il est 7h05, Anaïs, l'onde de choc du rapport Sauvé jusque sur le terrain politique.
Et surtout depuis les déclarations du président de la Conférence des évêques de France, la confession s'impose à nous, dit Éric de Moulin-Beaufort, le secret est plus fort que les lois de la République. Levé de bouclier à gauche, même si les évêques assurent chercher une alternative à ce secret et regarder de près les recommandations de la commission, elle préconise d'obliger un confesseur à signaler les cas de violences sexuelles. À Lyon, où avait éclaté l'affaire Prénat, les avis sont partagés. Le reportage de Christophe Vincent à la basilique de Fourvière.
L'archevêque de Lyon, Olivier de Germay, avait entrouvert la porte du confessionnal. Le patron des évêques l'a vite refermée. Pour Éric de Moulin-Beaufort, c'est un espace de parole libre qui se fait devant Dieu. À la messe du soir, les fidèles étaient partagés.
Le confessionnal reste un endroit où on a une latitude à dire ce qu'on a sur la conscience, sans que ça soit apporté.
Je suis pour qu'on puisse lever totalement la primauté du confessionnal.
Ça risque d'inciter les gens à ne plus aller se confesser.
Pour le recteur de Fourvière, il faut à la fois protéger l'enfant et préserver la confidentialité du confessionnal, Yves Garpillon.
Le prêtre doit pouvoir dire à l'enfant, ce que tu dis là, tu sais, c'est extrêmement grave. Tu ne peux pas simplement en parler au prêtre. Voilà. Le prêtre a le droit de dire ça, bien sûr, dans la confession. Dans un deuxième temps, il pourra s'ouvrir soit à ses parents, qui, je l'espère, seront à son écoute, soit, bien sûr, à son enseignant, etc. Vous voyez, dans un cadre confidentiel, mais qui n'est pas le secret de la confession.
Sceptique, d'autres prêtres confient des agressions sexuelles révélées à la confession, c'est rarissime. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
L'État montré du doigt par l'ONG Human Rights Watch, 5 ans après le démantèlement du campement de migrants de Calais. Elle publie un rapport au vitriol contre la police. Expulsion quotidienne, tente lacérée, sac de couchage confisqué. La politique de dissuasion de l'État soumet les migrants à une humiliation et un harcèlement quotidien, dit l'ONG, qui pointe l'échec de cette politique. Plus de 950 opérations d'expulsion de routine ont eu lieu à Calais en 2020. France Inter vous le révélait la semaine dernière, la plainte de 73 patients du centre proxydentaire de Chevigny-Saint-Sauveur près de Dijon pour mutilation. Le centre ne rouvrira pas, l'agence régionale de santé l'a annoncé hier. Et ce matin, Anne Pinson-Ducel, plusieurs personnes sont en garde à vue.
D'après nos informations, il s'agirait du trésorier de l'association et d'une dentiste qui supervisait les équipes. Le patron de Proxy Dentaire, lui, serait actuellement à l'hôpital pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Le procureur de Dijon a prévu d'en dire un peu plus cet après-midi. Ce qui est acté, en tout cas, c'est que les centres de Chevigny-Saint-Sauveur et de Belfort n'ouvriront plus leurs portes et ce n'est pas Laetitia Baudot, la présidente d'un collectif d'usagers de proxy dentaire, qui va s'en plaindre.
On est à la fois soulagés, mais on soulagés parce qu'ils ne feront pas plus de victimes, mais on est aussi inquiets pour la suite à venir. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce qui va se passer pour nos prothèses, pour nos sous? On attend de voir comment ça va se passer.
Elle n'a qu'une seule dent en moins, mais certains sont complètement édentés et endettés. Il y aurait près de 3000 victimes dans cette affaire. 73 ont porté plainte. On attend maintenant de connaître les motifs officiels de la fermeture des cliniques et de savoir si la justice va prononcer une interdiction de gérer des centres de ce genre à l'encontre des responsables de proxy dentaire.
Anne Pinson du sel France Bleu Bourgogne pour France Inter. Des milliers de tonnes d'ordures sur les plages, dans les rues à Marseille et son agglomération. Malgré la reprise partielle des éboueurs en grève depuis le 27 septembre, la préfète de police des Bouches-du-Rhône réquisitionne du personnel. Et puis Marseille en bleu et blanc, dress code pour l'hommage à Bernard Tapie. Chapelle ardente à partir de 17h au Vélodrome avant les funérailles demain à la cathédrale de la Major.
Aux États-Unis, 7h09, le gouvernement Biden salue une victoire pour les Texans.
La loi sur l'avortement vient d'être bloquée temporairement par un juge fédéral il y a quelques heures à peine. Elle était entrée en vigueur le 1er septembre, interdisant l'avortement à peine les battements du cœur détectés. Le blocage n'est pas définitif, Sébastien Paour, mais c'est un revers pour l'État républicain.
Cela faisait 35 jours que les Texans ne pouvaient plus avorter au-delà de 6 semaines de grossesse. Même en cas de viol ou d'inceste, le juge parle dans son arrêt d'une privation choquante qui ne pouvait pas continuer un jour de plus. Il interdit à tous les les fonctionnaires et employés de l'État d'appliquer cette loi tant que la bataille juridique se poursuit. Plusieurs plaintes, notamment d'associations de défense des droits des femmes, sont en cours. Et la Cour suprême, qui n'a pas voulu s'opposer à la loi le mois dernier, la Cour suprême se penchera sur le sujet le 1er décembre. D'autres tentatives de limiter l'accès à l'avortement ont déjà été retoquées dans d'autres États, parce que contraire au droit acquis en 73 aux États-Unis. Mais la loi du Texas est particulière, elle donne à n'importe quel citoyen américain le pouvoir de la faire respecter, moyennant 10 000 dollars si sa dénonciation aboutit au tribunal. Pour l'heure, la loi est donc bloquée, même si l'État du Texas peut encore faire appel. Et en attendant, eh bien, les Texans ne sont plus obligés de faire le voyage jusqu'en Oklahoma ou dans le Colorado voisin pour se faire avorter. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
8 femmes djihadistes allemandes et 23 enfants rapatriés des camps du nord de la Syrie. Opération annoncée dans la nuit par Berlin. Les enfants ne sont pas responsables de leur situation, dit le ministère allemand des Affaires étrangères, qui ajoute les mères devront répondre de leurs actes devant la justice pénale. L'Allemagne, qui juge aujourd'hui le plus vieil accusé de crimes nazis, un ex-gardien du camp de concentration de Sachsenhausen, aujourd'hui âgé de 100 ans, poursuivi pour complicité de meurtre de plus de 3000 prisonniers. On en parle à 7h30. La sanction est tombée pour Lens, Lille et Marseille. La commission de discipline de la Ligue de football inflige un retrait d'un point avec sursis pour les trois clubs. Angers écope de 2 matchs à huis clos, dont un avec sursis après les incidents de fin de match. L'Espagne, toujours en football, bourreau de l'Italie, Ligue des Nations. Hier, en demi-finale, elle a mis fin aux 37 matchs sans défaite des Italiens. Victoire 2-1, donc de l'Espagne à Milan, qui se propulse en finale contre la France ou la Belgique. Et c'est sur la pelouse de Turin ce soir que se réglera cette revanche des Diables Rouges éliminés par les Bleus lors de la Coupe du Monde 2018. Défaite toujours pas digérée, à tel point que quand la Suisse, vous vous souvenez, a sorti la France à l'Euro, eh bien on a assisté à des scènes de liesse à Bruxelles, Angélique Boin.
Ce patron de bar n'en revient toujours pas. Quand la France a perdu face aux Suisses sur la place de ce quartier étudiant, des dizaines de supporters ont applaudi et copieusement, dit-il, insulté les Français. Attablés en terrasse, ces jeunes fans de foot assument.
Moi et les Français, ça fait deux. Parce qu'on a perdu la Coupe du Monde, ça nous fait encore mal, mais on va se venger, je pense, et on va gagner.
Ils ont surtout beaucoup parlé, les Français, ils sont beaucoup vantés de leur réussite.
Ils ont une grande bouche, je trouve, personnellement. Ouais.
Ce jeune couple l'admet en souriant. Le foot ici, ça part en vrille.
France-Belgique, c'est vrai que d'office, c'est la galère, quoi. Il y a des bagarres, il y a des trucs, ça peut aller loin.
Bah après, c'est ça qui est drôle dans le foot, hein. Faut pas que ce soit trop calme non plus. C'est gai de lâcher la pression.
Dans un pays souvent moqué et au complexe d'infériorité phénoménale, explique de son côté le sociologue du sport Jean-Michel Dewelle, le foot est l'une des rares fiertés nationales et l'arrogance française exaspère.
Nous avons vécu durant des années dans une moquerie, dans un déclassement permanent, les blagues de Coluche, et je pense que c'est le révélateur de relations qui sont bien plus endommagées qu'on ne le pensait.
Une rivalité qui dans le foot est devenue toxique, invivable et stupide, résume effaré le journaliste sportif Swan Borsellino. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Et le foot, ça peut donc être sérieux, on essaiera de ne pas être stupide ce soir. France-Belgique à Turin, coup d'envoi 20h45.
Et on en parlera avec Alex Vizorek. Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes sur la lutte contre la pollution lumineuse.